prédication de ce matin, on a choisi un texte bien connu, puisque je pense que c'est sans doute le texte qui a été le plus lu dans toutes les églises chrétiennes depuis 2000 ans, toutes confessions confondues, non ? Et ce texte donc se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Chapitre 11 et les versets 23. Où est-ce qu'on est là ? On est là. 23 à 29. Donc, c'est un texte bien connu. Est-ce que quelqu'un voudrait le lire ? 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29.
Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain, il boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi.
Merci. Donc voilà, c'est un texte effectivement bien connu, non ? Qu'on lit à chaque fois qu'on prend la Sainte Cène dans l'Église. Et ce matin, on va plus spécialement, je dirais, se concentrer sur les versets 27 et 29, dans lesquels on voit que quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur, et où on voit également que celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Et je crois que, j'imagine en tout cas que tous, à un moment donné, on s'est posé la question, non, de savoir s'il arrivait qu'on prenne vraiment le corps et le sang du Christ de manière indigne, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire prendre la Sainte Cène de manière indigne ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Et qu'est-ce que ça veut dire discerner ce qu'est le corps également ? Non ? Je ne sais pas. Peut-être qu'au fur et à mesure des années, où on a compris le sens, ou peut-être on laisse la question de côté, mais je pense que c'est intéressant parce que j'imagine que personne d'entre nous n'a envie de boire un jugement contre lui-même. Non ? Donc on va se concentrer un petit peu là-dessus. Et je pense que pour bien comprendre ce texte, pour bien comprendre un texte biblique de façon générale, il faut le replacer un petit peu dans son contexte. Donc le contexte ici, c'est l'église de Corinthe, c'est la ville de Corinthe. Donc la ville de Corinthe, c'est une ville qui est connue pour son immoralité. C'est une ville également qui est connue pour son polythéisme. C'est une ville cosmopolite. Il y a toutes les religions un petit peu se croisent ici. Le christianisme n'a eu aucun mal d'ailleurs à s'implanter. Il n'y a pas eu d'opposition parce que c'était une de plus, une de moins, ça revient à peu près au même. L'église de Corinthe, on voit à travers cette lettre notamment que c'est une église problématique. Paul a fondé cette église lors de son deuxième voyage missionnaire, et une fois qu'il l'a fondée, il est parti, il a continué sa mission et il a écrit plusieurs lettres à cette église, dont celle-ci, qu'on appelle la première lettre aux Corinthiens, qui en fait est au minimum la deuxième, mais ça n'a pas d'importance. Et cette lettre, il l'écrit suite à deux événements. D'abord, il a reçu des informations par les gens de Chloé, nous dit le texte, en 1 Corinthiens 1, verset 11, par les gens de Chloé. On ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas qui est Chloé. Mais en tout cas, ces gens font un rapport à Paul et font un rapport assez peu honorable, finalement, de ce qui se passe dans l'église de Corinthe. Entre autres, ils font état de divisions internes, de cas d'immoralité sexuelle tels qu'ils ne s'en rencontrent même pas chez les païens, nous dit le texte. Et en l'occurrence, dans cette lettre, Paul, à un moment, traite un cas d'inceste. On y trouve des problèmes d'orgueil, bien que j'imagine que ça, c'est un peu commun à toutes les églises. Et on y trouve le recours à des juges incroyants pour régler des différends entre membres de l'église, entre membres chrétiens, entre frères et sœurs. Et le deuxième événement, c'est qu'il a reçu une lettre de l'église de Corinthe qui aborde différentes difficultés rencontrées par l'église. Donc, Paul, avec toutes ces informations, décide d'écrire, non, pour essayer de régler un certain nombre de problèmes. Et parmi les problèmes qu'il aborde, parmi les sujets problématiques, il y a les repas fraternels de l'église de Corinthe, repas fraternels durant lesquels on célébrait la Sainte Cène. Alors, on peut peut-être s'étonner que les repas fraternels ou fraternaux, j'ai douté, fraternels, merci, soit problématique, non? Parce que pour moi, s'il y a bien un moment où il n'y a pas de problème, c'est quand on se réunit autour d'une table, qu'on mange ensemble, on est bien. Et eh bien, dans l'église de Corinthe, ça ne se passait pas exactement comme ça. Et on commence par le verset 17 du même chapitre, évidemment, où Paul dit « Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. » Donc, les chrétiens de Corinthe, ou au moins une partie d'entre eux, se réunissent. Et non seulement ça ne les édifie pas, mais en plus ils ressortent pire qu'ils ne sont entrés. Ce qui est un peu dommage quand on vient à l'église, non ? C'est pas ce qu'on espère, en tout cas. Ensuite, au verset 20... Il dit également, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler ça prendre le repas du Seigneur. Et il explique pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette église ? Il dit, parce que à peine êtes-vous à table, que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Et il s'énerve même, il dit, s'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire ? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée ? Que puis-je vous dire ? Vais-je vous féliciter ? Certainement pas. Voilà. Alors là, moi, je vois un peu le cœur de père de Paul ici. Il a fondé cette Église, je crois qu'il l'a très à cœur et il voit que c'est le chaos, non ? Pendant les repas fraternels, c'est un chaos total. Les pauvres arrivent après une journée difficile de travail. Et ce qu'il rencontre, c'est les gens plus riches de l'Église qui ont pu venir plus tôt, qui non seulement n'ont rien laissé à manger pour eux, mais en plus se sont saoulés. Enfin, je ne sais pas, effectivement, on ne s'étonne pas finalement que Paul leur dise qu'on ne peut plus appeler ça prendre le repas du Seigneur, non ? Alors, ensuite, viennent les versets 23-26 qui viennent en contraste, finalement, entre ce que font, entre l'attitude des Corinthiens, finalement, et qui viennent en contraste avec l'attitude des Corinthiens, non, des chrétiens de l'Église. Et donc, les versets 23-26 vont nous expliquer pourquoi leur attitude est scandaleuse. En quoi elle est scandaleuse ? En quoi il y a un problème ? Et il commence en disant « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur. » Donc là, il pose les fondements. Il pose les fondements. La Sainte Cène, c'est pas Paul qui l'a instituée, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc c'est une chose grave, c'est une chose sérieuse. C'est une chose sérieuse, la Sainte Cène. Et pourquoi c'est sérieux ? Paul nous dit « Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc, La Sainte Cène, c'est un geste mémorial. On commémore l'événement du sacrifice du Christ à la croix. On commémore son corps brisé, son sang versé. On commémore finalement cet événement historique qui nous a réconciliés avec Dieu, cet événement historique qui fait qu'aujourd'hui Dieu nous voit comme juste, comme sans tache, par le prisme de Jésus-Christ. C'est ce qu'on fait quand on prend la Sainte Cène, et je pense que ça nécessite une forte conscience de ce qu'on est en train de faire quand on vient s'approcher pour prendre le pain, pour prendre le vin. Et on ne peut pas prendre, je crois, la chose à la légère, non ? On ne peut pas prendre la chose à la légère. Ensuite, Paul dit, « Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » C'est une proclamation incessante, la Sainte Cène. C'est une proclamation incessante de la part du peuple de Dieu, et c'est une double proclamation. D'abord, on annonce la mort du Seigneur, c'est-à-dire on annonce cet événement qui fait qu'aujourd'hui nous sommes justes devant Dieu. Et on annonce également qu'il va revenir. On va répéter cet acte jusqu'au retour de Jésus. Alors, qu'est-ce que les repas fraternels ont à voir avec ça, finalement ? Eh bien, je crois que le rapport entre la Sainte Cène et les repas fraternels, c'est le même que le rapport qu'il y a entre les deux commandements les plus importants que vous connaissez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, nous dit Jésus. Et il nous dit également que voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans l'église de Corinthe, comme on l'a vu, il y avait sans doute un problème au niveau de l'amour entre frères et sœurs, non ? Certains mangeaient beaucoup, d'autres n'avaient rien à manger, certains s'enivraient, pendant que d'autres ne pouvaient même pas se rassasier. Et donc, effectivement, on ne peut plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Manger le pain et boire la coupe dans ces conditions-là, en ayant méprisé son frère avant, eh bien c'est indigne. C'est indigne du mémorial de la Sainte Cène qui commémore le sacrifice d'amour de Dieu envers les hommes. La Sainte Cène, c'est également, et c'est surtout, je crois, un moment profondément relationnel. Alors, relation avec le Seigneur, je crois que ça tombe sous le sens, non ? Le fait de prendre la Sainte Cène, c'est se mettre en relation également avec le Seigneur. Mais c'est aussi, je crois, un signe visible et physique de nos relations entre frères et sœurs. Et alors, Anna, si tu peux venir pour nous parler un peu de l'aspect de l'intimité avec les frères et sœurs, non ?
Bon, je vais faire trois petites interventions pendant sa prédication. Et ça vient parce que ça fait quelques semaines, notre église à Barcelone m'a demandé de faire une présentation de la Sainte Cène. Et alors, Laurent m'a dit, ah, c'est très joli ça, tu pourrais aussi le partager à Clermont. J'ai dit oui, bien sûr. Ce sont trois petites réflexions, pas vraiment théologiques, mais plutôt personnelles et émotionnelles sur la Sainte Cène. Alors, à propos de l'aspect relationnel, quand j'ai commencé à réfléchir, à méditer sur la Sainte Cène, je me suis dit, mais c'est curieux que la Sainte Cène, ce n'est pas un acte privé. On n'arrive pas chez soi le soir et on dit à son mari, chéri, on va organiser une petite Sainte Cène entre nous. Hein. On va sortir les petits verres, on va sortir les petits morceaux de pain, et voilà, on va célébrer ça dans notre intimité, notre joie. Mais tout au contraire, c'est toujours un acte communautaire dans l'Église. Je me demandais, et pourquoi, non ? Qu'est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous, peut-être la majorité parmi vous qui venez ici dans cette Église depuis des années et des années, je ne sais pas si vous avez réfléchi que vous avez mangé ensemble des kilos et des kilos de pain, peut-être. Vous avez bu ensemble des litres et des litres de, je ne sais pas qu'est-ce que vous buvez, peut-être des jus de raisin, du vin, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, non ? Ça doit vouloir dire quelque chose, c'est pas comme ça. Et alors le Seigneur m'a fait souvenir d'un événement de mon passé, que moi j'aime beaucoup. Quand j'étais jeune et j'habitais toute seule à Barcelone, je suis espagnole de Barcelone, Et de temps en temps, deux, trois fois par an, je faisais une fête à la maison et j'invitais 30, 40 personnes. Des gens qui venaient des ambiances très différentes, des amis de l'église, des amis du boulot, des amis de la fac, des gens espagnols, des gens étrangers, tout bien mélangé là, à la maison. Non? Et j'ai passé la plupart du temps en présentant les gens, parce que les gens naturellement venaient vers moi, ils voulaient passer le temps avec moi, mais si j'invite 30 personnes, ce n'est pas possible, je ne peux pas passer mon temps avec eux. Alors j'essayais de leur montrer comment ils pouvaient se relationner aussi. Je disais, ah mais toi tu aimes bien, je sais pas, parler anglais, voilà, lui il est américain, oh c'est bien ça. Tu aimes bien faire des randonnées, voilà, lui il est un expert en faire des randonnées, ah c'est bien ça. Et alors je crois que le Seigneur m'a voulu montrer que peut-être quand il nous invite à la Sainte Cène, qui est en fait communautaire, en fait il nous invite aussi à essayer de chercher aussi l'intimité et les temps entre nous. Il y a quelque chose là qui nous unit par le fait de manger le même pain, le même vin, et de le faire d'une manière communautaire. Voilà.
Alors, moi je repars sur la théologie. Moi je suis le côté un peu plan-plan de l'affaire. Donc, justement, il y a toute une discussion théologique sur le verset 29, sur la première partie du verset 29, qui nous dit « Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même. » Non ? Il y a toute une discussion théologique au sujet de ce mot, le corps, discerner le corps. Savoir si on parle du corps physique de Jésus, c'est-à-dire discerner sa chair, ses os, non, le corps physique, ou savoir si on est en train de parler du corps du Christ comme Église, dont il est la tête, le corps dont il est la tête. Alors, bon, il y a des avis qui divergent. Alors, moi, je ne suis pas du tout théologien, mais ça me plaît de penser que finalement, on peut accepter les deux lectures, même si probablement dans la pensée de Paul, il n'y en a qu'une qui est valide, mais en tout cas, les deux sont intéressantes. Parce que ne pas discerner le sacrifice de Jésus dans la Sainte Cène, s'approcher de la table du Seigneur sans discerner son corps brisé, sans discerner son sang versé, sans discerner ce sacrifice, alors probablement, effectivement, c'est boire un jugement contre nous-mêmes, parce qu'on ne discerne pas ce qui nous a rendu juste devant Dieu, non ? Quand on s'approche. On est donc sous le jugement de Dieu quand on ne fait pas ce discernement, pas seulement d'ailleurs au moment de la Sainte Cène, mais peut-être, en tout cas le moment de la Sainte Cène, c'est peut-être le moment adéquat pour se remettre ça en mémoire, non ? Et d'un autre côté, s'approcher de la table du Seigneur sans discerner l'Église, sans discerner nos frères et sœurs, sans les considérer, sans se soucier d'eux, c'est sans doute également manger et boire un jugement contre nous-mêmes, parce qu'on ne distingue pas l'unité indivisible du corps du Christ, qui fait que si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Si on maltraite un membre, on se maltraite nous-mêmes, on fait partie de ce corps. Alors, la Sainte Cène, je crois, devrait faire écho à une authentique communion fraternelle dans l'Église. C'est, en quelque sorte, c'est Dieu lui-même qui nous invite tous, comme corps, à sa table, et qui nous invite donc à la relation intime du repas, et Anna va revenir directement, déjà, pour nous parler justement de ce rapport. On a parlé de l'intimité entre frères et sœurs, et on va parler un peu, Anna va parler un peu de l'intimité avec Dieu, non ?
Oui. Et de ça aussi. Ah, merci. Aussi, quand j'ai médité sur l'effet de la sans scène, je ne sais pas si en français scène a ce même sens qu'en espagnol, mais scène, c'est le repas du soir. Et alors je me disais, pourquoi c'est la Sainte Cène ? Au point de vue historique, c'est clair, c'est parce que Jésus a institué ça pendant un repas du soir. Mais qu'est-ce que ça veut dire le repas du soir, non ? Pourquoi ? Et parce que ça pourrait être par l'heure qu'on prend normalement ça, le saint petit déjeuner, ou ça pourrait être le saint goûter, et même il y aurait avec du pain un peu de chocolat, ça serait encore plus sympa. Mais non, c'est la Sainte Cène. Et alors, encore une autre fois, le Seigneur m'a fait réfléchir sur un événement qui s'est passé, ça fait pas longtemps, chez nous. Ça fait quelques semaines, on a invité à manger un repas du soir à une copine du boulot et à son mari. Lui, elle est une amie à moi, elle est de Chile, elle est très sympa. Et lui, il est français, et il est très sympa aussi. Mais je ne les connaissais pas. Alors, Laurent, il avait entendu parler d'elle, mais il ne connaissait pas l'homme. Moi, je ne connaissais pas l'homme non plus. Et bon, on les a invités comme ça parce qu'ils avaient l'intention de faire un morceau du chemin de Saint-Jacques. Et nous, nous sommes les experts sur les chemins de Saint-Jacques. Et ils sont venus. Et bon, on a passé un beau temps, je ne sais pas, 3, 4, 5 heures. Ils sont partis assez tard. Ils n'ont pas d'enfants, alors ça se comprend. Ils peuvent rester jusqu'à tard. Et quand ils sont partis, Laurent, il m'a dit, « Ah, mais qu'ils sont sympas, cet homme et cette femme, je les aime beaucoup, il faut les inviter encore une autre fois, il faut les revoir, non ?» Je me suis dit, « Regarde, c'est curieux, non ? C'est un repas, c'est quelques heures avec quelqu'un que tu connaissais de rien, tu ne savais même pas quelle tête il ou elle faisait, et soudain, tu as une relation, tu as un rapport, tu as un sentiment, tu as l'impression que tu le connais, tu as envie de passer plus de temps avec eux, non ?» Et alors je me suis demandé, peut-être les seigneurs, ils nous demandent d'approfondir notre rapport avec les autres, comme on parlait avant, mais ils nous demandent aussi de passer du temps sérieux et avoir de l'intimité avec lui, de se laisser connaître par lui et d'essayer de les connaître, de sortir de ce moment de la sainte scène en se disant, mais que c'est bien de passer ce temps avec Jésus, comment je voudrais y aller encore une autre fois, les connaître plus, avoir un temps d'intimité et un temps de qualité avec lui. Ah, c'est déjà. Ah, d'accord. Et alors, le troisième aspect dont je voulais parler, c'était l'aspect physique de la sainte scène qui m'a toujours beaucoup intriguée et que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Non, quand on y pense, je trouve que c'est très bizarre que Jésus il nous fait manger son chair, sa chair et sa sang. La première réaction, je comprends quand les Juifs ils ont refusé ça parce que. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, non ? C'est comme si on mangeait une personne. Mais je crois que l'aspect physique est aussi très intéressant. Et je me demandais si ce n'est pas comme un symbole que Jésus ne veut pas seulement maîtriser nos pensées, nos émotions. On entend souvent nous dire « il faut que vous rendez tout ce que vous êtes, toute votre pensée, toutes vos émotions à Jésus. » Non ? Peut-être il faut aussi lui rendre notre appareil digestif. Toutes les choses qui se passent par là-bas, la rage, toutes les actions viscérales qui viennent du plus bas, non ? Mais en tout cas, je trouve très, très mystérieux l'aspect physique de la sainte scène, comme si c'était que Jésus veut tellement, il a tellement soif et faim de nous, qu'il veut être dans tout ce que nous sommes, non ? Même physiquement, d'une manière physique, je ne sais pas comment. Comment raconter, mais bon, lui qui étudie la théologie, il va trouver la solution. C'est sûr.
Non, il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas bien. Alors, je reprends mon. Donc, voilà, je pense que l'idée de Paul vis-à-vis de la Sainte Cène dans ce texte, c'est surtout que nous nous approchions. De la table sur laquelle sont le pain et le vin, à laquelle le Seigneur nous convie, et bien qu'on s'en approche d'une manière consciente, vraiment. On parlait ce matin de la routine, et en matière de Sainte-Cène, il ne peut pas y avoir de routine. Je crois que la routine dans la Sainte-Cène, effectivement, c'est la prendre de manière indigne. On ne peut pas s'approcher de cette table parce que c'est ce qu'on fait tous les dimanches, voilà. C'est tout, on l'a fait dimanche dernier, on le fera dimanche prochain, bon, tous les 15 jours ici, je crois. Je crois que c'est pas correct, que c'est pas juste. Et je pense que c'est nécessaire de prendre un temps, même court, peu importe, même si on a un enfant qui court, qui nous grimpe dessus et tout ce qu'on veut, il y a un moment où il faut se centrer sur ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire, c'est commémorer le sacrifice de Jésus-Christ. Ça demande du respect, je crois. Et je vais simplement dire un dernier mot sur le verset 30 qu'on n'a pas lu, parce que c'est un verset, je pense qu'on fait exprès de ne pas le lire, parce qu'il n'est pas très plaisant. Paul nous dit que pour avoir pris la Sainte Cène de manière indigne dans l'église de Corinthe, il dit « C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades, Où est-ce que je suis ? Je suis perdu. Tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Honnêtement, hein, moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, Paul, Paul, il exagère. Je veux dire, c'est pas parce qu'on prend la Sainte Cène comme ça, un peu à la légère, qu'on va en mourir, non ? Mais si on replace ça dans cette idée de communion fraternelle, dans cette idée de prendre soin les uns des autres, dans cette idée d'être attentif à nos frères et sœurs, alors je crois qu'effectivement, si on ne fait pas tout ça, si on n'est pas attentif les uns aux autres, je veux bien croire qu'on peut tomber malade, je veux bien croire qu'on peut être infirme, je veux bien croire qu'il y a des gens qui puissent en mourir. Parce que, rien que dans notre société, il y a beaucoup de personnes âgées qui meurent d'indifférence, non ? Il y a beaucoup de gens qui sont malades d'être ignorés. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette manière-là, non ? Alors peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être qu'on peut faire cette lecture, en tout cas, de ce verset-là. Alors il y a vraiment un lien direct entre la communion fraternelle, évidemment, et la Sainte Cène, entre le fait de s'aimer les uns les autres et la Sainte Cène, entre le fait de prendre soin les uns des autres. Alors la conséquence logique de cette prédication, il me semble, c'est qu'on va prendre la Sainte Cène ce matin, ensemble. Et alors j'aimerais simplement vous inviter à prendre un petit temps. Quelle heure il est ? Ça fait... Oh, ça va, on a le temps. 10 minutes, 20 minutes de silence ? Non. on va prendre un petit temps de silence. Et durant ce temps de silence, je vous propose simplement deux pistes de réflexion avant de venir prendre cette Sainte Cène, qu'on prendra ensemble. C'est sous forme de deux questions. Où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu ? Où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu ? Et où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec vos frères et sœurs qui sont là autour de vous, avec vos frères et sœurs en Christ ? Où est-ce que vous en êtes ? On va prendre un petit temps de silence, je clôturerai par une prière et on pourra prendre la Sainte Cène. Alors Seigneur, ce matin nous voulons te remercier pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Ce matin nous allons prendre la Sainte Cène que tu as instituée. Et nous voulons le faire vraiment avec un cœur entier. Nous voulons le faire en ayant conscience vraiment de ce qu'on fait, en ayant conscience qu'on commémore cet événement qui fait qu'aujourd'hui Dieu nous voit juste, nous voit sans tache quand on se confie en son Fils Jésus-Christ. Seigneur, on ne veut pas prendre ce repas de façon indigne. On ne veut pas t'offenser, Seigneur, en s'approchant de cette table. Et on ne veut pas le faire non plus hypocritement, en prétendant nous approcher de toi, sans vouloir nous approcher de nos frères. Seigneur, je te demande de bénir chacun d'entre nous ce matin, de dévoiler dans le cœur de chacun, Seigneur, les taches d'ombre, et de nous encourager, Seigneur, chacun, ce matin, vraiment à nous réconcilier, si on doit se réconcilier avec nos frères et sœurs, avec quelqu'un, à nous engager, peut-être d'une certaine façon, à aller parler avec quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir, parce que peut-être il nous a blessés, ou peut-être nous, on l'a blessé. Et... Seigneur, on ne prétend pas qu'il faut être sans péché pour venir près de cette table, parce que ça, c'est impossible. Mais Seigneur, je te demande de nous aider à découvrir quels sont nos péchés, Seigneur, et en quoi on a pu éventuellement fauter dans nos relations fraternelles, soit par des choses qu'on a dit, soit par des choses qu'on n'a pas dit, au contraire. Et que tu nous mettes vraiment dans le cœur ce désir profond, Seigneur, de réparer, de pacifier, d'aimer notre prochain, Seigneur. Et nous viendrons à ta table avec joie, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Voilà. Alors simplement, je dirais que